Une diplomatie dynamique est en cours afin de poursuivre les intérêts nationaux du pays, affirme le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Téhéran fustige le comportement ambivalent des Occidentaux envers les crimes israéliens à Jenin. Et en France, on a eu l'activation à distance des caméras ou microphones validés. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. On vous lisait en titre, une diplomatie dynamique est en cours afin de poursuivre les intérêts du pays, affirme le ministre des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a évoqué ses rencontres avec certains de ses homologues en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du mouvement des non-alignés, MNA, à Bakou et a déclaré, dixit, une diplomatie dynamique est en cours avec pour but de poursuivre les intérêts nationaux. Dans un message publié vendredi sur son compte Twitter, Amir Abdollahian a fait un bref rapport sur ses négociations en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du mouvement des non-alignés en République d'Azerbaïdjan. La réunion ministérielle de 2 jours du bureau de coordination du MNA s'est tenue à Bakou les 5 et 6 juillet. Lors de la visite à Bakou, en plus de prononcer un discours, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du MNA et du Comité sur la Palestine, j'ai tenu des réunions et eu des entretiens avec le président de la République d'Azerbaïdjan et mes homologues du Nicaragua, la Turquie, la Biélorussie, la Syrie, le Koweït, le Soudan, l'Irak, la Malaisie ainsi que le mouvement de libération de Palestine Fatah, a expliqué le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Actualité est aussi la Cisjordanie. 4 Palestiniens tués ou blessés à Nablus dans une incursion de l'armée israélienne. Des militaires israéliens ont fait une descente dans une maison de la ville de Nablus vendredi matin, tuant 2 jeunes Palestiniens et blessant 2 autres. Les forces d'occupation ont encerclé cette maison et ont tué les combattants de la résistance Hamza Makboul et Kairi Shahin après qu'ils ont refusé de se rendre. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé que 2 autres jeunes hommes qui ont été blessés, l'un au dos et l'autre à la jambe, ont été transportés à l'hôpital Rafidia de Naplouse. Les médias israéliens ont annoncé qu'un militaire sioniste avait été blessé lors des affrontements. Les forces de l'armée sont entrées à Naplouse ce vendredi matin pour arrêter et confisquer des armes, ce qui a débouché sur un conflit, a rapporté la chaîne d'information israélienne CAN. Lundi matin, les militaires du régime d'occupation ont attaqué le camp de Jenin en Cisjordanie. Or, ils ont été contraints de battre en retraite après 48 heures d'affrontement avec des habitants de cette ville. Les opérations du peuple palestinien contre les colons sionistes ont commencé mardi, ce qui a brisé la sécurité fragile du régime d'occupation. Les médias israéliens ont rapporté que la récente opération militaire de l'armée était un nouvel échec pour Tel Aviv. À ce propos, Téhéran a fustigé le comportement ambivalent des Occidentaux envers les crimes israéliens à Jenin. Les États-Unis et l'Europe exigeront-ils la formation d'une commission d'enquête auprès du Conseil des droits de l'homme? Jamais, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en réaction aux crimes commis par le régime sioniste dans le camp de Jenin. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, réagissant au comportement des Occidentaux face aux crimes du régime sioniste à Jenin, a écrit dans un tweet, dixit, 12 martyrs, 140 blessés, destruction complète des réseaux d'eau et d'électricité, 300 maisons démolies, 500 autres endommagées, destruction des rues et des magasins, etc. Voici les conséquences de la campagne militaire démentielle de l'armée sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin. Le diplomate iranien a déclaré le fait que les États-Unis et l'Europe n'exigent pas du Conseil des droits de l'homme qu'il crée une commission d'établissement des faits. Actualisée aussi la France, où les législateurs ont accepté d'autoriser la police à espionner les suspects en activant à distance la caméra, le microphone et le GPS de leur téléphone et autres appareils. En vertu de la disposition approuvée jeudi, des appareils peuvent également être activés à distance pour enregistrer le son et les images de personnes soupçonnées d'infractions terroristes ainsi que de délinquance et de crimes organisés. La disposition s'applique en particulier aux téléphones et aux ordinateurs ainsi qu'à tous les appareils électroniques équipés d'un microphone, d'une caméra y compris les ordinateurs ou encore des ordinateurs de bord de véhicules et d'autres appareils connectés à Internet. Avec cette stratégie, les appareils électroniques peuvent offrir la possibilité de déterminer l'emplacement de tous les suspects qui sont poursuivis pour des crimes passibles d'au moins 5 ans d'emprisonnement. La disposition qui fait partie d'un projet de loi plus large sur la réforme de la justice a été approuvée à la demande d'Éric Dupond-Moretti, le ministre français de la Justice, qui a affirmé que la mesure n'affecterait que des dizaines de cas par an. Qualifiant la mesure des législateurs de glissade vers une sécurité autoritaire, le groupe de défense des droits numériques, la Quadrature du Net, a écrit dans un communiqué que la disposition approuvée soulève de sérieuses inquiétudes quant aux atteintes aux libertés fondamentales, aux droits à la sécurité, à la vie et à la communication privée. Plus tôt, en réunion avec des maires mardi 4 juillet dans un contexte tendu après plusieurs nuits de violence à travers la France, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'une des options pour contrôler les manifestations pourrait être de couper l'accès aux plateformes de médias sociaux telles que Snapchat et TikTok. Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes, sur les interdictions que l'on doit mettre, et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper, a-t-il dit lors d'une réunion avec 220 maires. Dont les communes ont vu des milliers de personnes qui protestaient contre le gouvernement. Selon le gouvernement français, lors des récentes manifestations de protestation d'envergure en France, des jeunes ont utilisé les médias sociaux pour organiser les manifestations à la suite du meurtre d'un jeune de 17 ans par un policier dans la banlieue parisienne. Suite de l'actualité, la chargée d'affaires de l'ambassade britannique à Téhéran, Isabelle March, a été convoquée jeudi par le directeur général du ministère pour l'Europe occidentale en l'absence de l'ambassade à Téhéran, quelques heures après que Barbara Woodford, l'émissaire britannique à l'ONU, s'est adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour critiquer les activités pacifiques de l'Iran sur l'énergie nucléaire. Woodward a accusé l'Iran d'avoir violé la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui approuve le plan global d'action commun, PGAC ou JCPOA, un accord conclu entre l'Iran et le groupe 5+1 en 2015. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord en 2018 et ont établi les sanctions qu'il avait déjà levées. Les alliés occidentaux de Washington, dont le Royaume-Uni, ont alors commencé à suivre de près la ligne de sanctions américaines et ont cessé de poursuivre leurs activités commerciales avec Téhéran. Woodward a critiqué une série de mesures adoptées par la République islamique d'Iran en représailles, sans évoquer les violations de l'accord nucléaire par les pays occidentaux ayant poussé Téhéran à réagir. L'Iran a réaffirmé qu'il n'annulerait ces représailles que si les pays occidentaux reprenaient leur engagement envers l'accord. L'envoyé britannique à l'ONU a également accusé l'Iran de fournir les drones à la Russie. Selon ses propres termes, Téhéran a catégoriquement démenti cette allégation, soulignant qu'il est toujours contre la guerre qui se déroule en Ukraine. Dans la foulée, le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement dénoncé les accusations de Londres en les qualifiant d'indiscrètes. Il a conseillé aux autorités britanniques de s'abstenir de tomber dans les pièges tendus par le régime sioniste et les groupes terroristes. Le ministère des Affaires étrangères a également condamné énergiquement les tentatives du régime de Tel Aviv et des campagnes incessantes de diffamation du groupuscule terroriste Mujahideen-e Khalq, OMK, qui planifie de ternir l'image de la République islamique d'Iran sur l'échiquier mondial. La poursuite de l'approche destructrice de la Grande-Bretagne serait inacceptable et l'Iran adopterait indubitablement des mesures réciproques, proportionnées et efficaces en représailles, a conclu le diplomate iranien. Et pour fermer le journal, les dirigeants des 31 pays membres de l'OTAN vont réaffirmer lors du sommet de Vilnius la semaine prochaine que l'Ukraine deviendra, oui ou non, un jour membre de l'Alliance, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, sans toutefois donner d'indication de calendrier. Je m'attends à ce que les dirigeants réaffirment que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, et qu'ils s'unissent sur la manière de rapprocher l'Ukraine de son objectif, a indiqué le responsable norvégien lors d'une conférence de presse, sans s'avancer sur la formulation exacte qui pourrait être retenue. Nous sommes en train de nous consulter et de travailler sur la formulation exacte qui sera rendue publique quand nous nous serons mis d'accord, a-t-il dit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu lors de ce sommet qui se tient à Vilnius les 11 et 12 juillet, réclame de l'OTAN des engagements clairs sur une perspective d'adhésion une fois que la guerre déclenchée sera terminée. Les alliés cherchent encore une ligne commune sur les garanties de sécurité qu'ils sont prêts à accorder à Kiev et sur l'invitation à l'Ukraine à rejoindre à terme l'OTAN. Au sommet de Vilnius se tiendra pour la première fois une réunion du nouveau Conseil OTAN-Ukraine. Il sera formé des 31 alliés de l'OTAN et de l'Ukraine, a déclaré Jens Stoltenberg, soulignant que cela rapprochera l'Ukraine de l'OTAN. Avant son opération spéciale en Ukraine, la Russie avait émis comme ligne rouge l'intégration de son voisin à l'Alliance que le Kremlin considère comme une menace pour sa souveraineté. Chers auditeurs, c'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi.